paraît que t'as des propos intolérables. Où y'a pas de tolérance. Enculé de ta race.
I have come here to chew bubblegum. And I'm all out of bubblegum.
J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul.
Salut à tous, c'est Luc Le Bénédec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de cinéma traversant différentes époques à la recherche du meilleur film de tous les temps. Chaque mois, nous parlons d'un film et nous en profitons pour revenir en France à l'époque de la sortie du long métrage pour vous y parler des actualités, de la pop culture, musique, ciné et TV au moment de la sortie du film. Dans cette première partie de l'émission 65, on retourne en France le 10 avril 91 à la sortie du film Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Avec moi aujourd'hui pour parler de la pop culture et des news en France à cette époque, Manu.
Salut.
Pezzo.
Hello.
JB.
Salut.
Juna.
Coucou.
Et Karim.
Salut, salut.
C'est parti, tous dans la Twingo magique.
Magistrats devant un tribunal, c'est déjà un événement en soi. Et parmi eux, le petit juge Thierry Jean-Pierre, assigné par la société Urba Technique. Première surprise, dès l'ouverture de l'audience, Urba se désiste. Un armistice que refusent les trois juges. Ils demandent des dommages et intérêts pour préjudice moral et veulent un débat. Coincé, Urba doit plaider et revient en détail sur la rocambolesque perquisition de dimanche dernier.
Et du lourd ce soir.
Les syndicats de la firme Michelin ont exprimé leur stupéfaction à la suite de l'annonce hier des licenciements. Cette réaction révèle en fait un vrai traumatisme.
En tout, c'est 13% de l'effectif total de Michelin qui est menacé par ce nouveau plan social. Les usines d'Orléans, de Bourges et de Clermont-Ferrand seront plus durement touchées. Clermont, ville historique de Michelin, où les ouvriers ont été très choqués par la nouvelle.
Qu'est-ce que ça vous fait? C'est pas tellement un choc, hein.
Pas de choc.
Bah non, pas du tout, hein. Il y a d'autres de mes collègues qui sont partis à 55 ans aussi. Hein.
Mais alors pourquoi
je gueule? Ils s'en plaignent pas.
Chanson de mariage.
Ouais, chanson de mariage 2.0, celle-ci, hein. Poupée psychédélique.
Avec ta tête, Luc, je sens tellement que tu vas aller dans ta cave dans 10 minutes.
Je pense que ouais, je vais peut-être faire un retrait là. J'ai déjà pris trop cher en 2 minutes, là, ça me saoule déjà. Allez, on va pouvoir passer maintenant aux actualités.
Le point actuel de RVLT.
Alors, il n'y a pas grand chose à se foutre sur la dent, et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. C'est vrai que avril 91, c'était pas la teuf niveau actualité, tout ça. On se faisait quand même assez bien chier. Il y a quand même eu des clashs entre George Bush senior et Saddam Hussein, hein, sur le compte de la révolte kurde. Bien sûr, les conflits au Moyen-Orient, on aime ça, bien entendu. Alors, les licenciements également, vous avez entendu, dans les usines Michelin. Et on a les 50 ans de Bob Dylan également, qu'on fête dignement. Cette année.
Joyeux anniversaire à lui.
Joyeux anniversaire à lui, même si je suis sûr qu'il nous écoute. Alors, on a deux affaires qui font trembler la France actuellement. Il y a la polémique à l'Assemblée nationale entre la gauche et l'opposition suite à la destitution du juge Thierry Jean-Pierre sur l'affaire Urba. Alors, c'est un truc assez obscur. C'est une affaire qui a mis en lumière les financements occultes des campagnes présidentielles ou régionales des candidats de certains partis, dont notamment le PS qui était au pouvoir et pas franchement fier de se faire épingler. Il y a un affrontement qui a été fait à Sartrouville qui a lieu entre la police et les jeunes des quartiers pendant la reconstitution de la mort de Jamel Chetou. En fait, c'est un jeune homme qui s'est fait tuer par garde de vigile d'un carouf lors d'une interpellation musclée. Et c'est durant la reconstitution en fait que les affrontements ont eu lieu. Et s'il y a eu des affrontements, en fait, c'est surtout que le quartier jugeait que la police est intervenue un peu tard et surtout n'a pas pris en fait les mesures nécessaires pour les deux vigiles, selon le quartier, en fait, n'étaient pas habilités en fait à faire ce genre d'intervention, quoi. On va pouvoir passer peut-être au news flash indignité, tout ça.
Excellent.
Avec JB.
Nous sommes sur le service public. Quelle indignité.
Est-ce qu'on va être indigné, JB, aujourd'hui?
Absolument pas.
Moyennement.
En avril 91, c'est le début de l'évacuation de l'île de Luçon aux Philippines. Plus de 60 000 personnes vont être évacuées car le volcan Pinatubo menace d'entrer en éruption depuis qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a secoué l'île en juillet 90. L'éruption aura bien lieu en juin 91 et sera une des éruptions les plus importantes du 20e siècle. Plus de 300 morts seront à déplorer et la température moyenne du globe diminuera de 0,5 degrés pendant 2 ans.
Okay.
Et l'évacuation de l'île de Luçon est également indirectement lié à cet autre fait intéressant d'avril 91. Et oui, c'est une véritable star de la télé-réalité qui naît en avril 91, répondant au doux nom de Capucine Anav. Qui connaît? Oh,
non. Le nom me parle. Hein.
Ça parle, voilà. Aussi bizarrement.
Personne. Elle s'est fait connaître en 2012 lors de la 6e saison de Secret Story et participera également aux Anges de la télé-réalité l'année suivante. Elle deviendra animatrice sur Fun Radio, puis finira chroniqueuse dans l'émission littéraire et culturelle Touche pas à mon poste.
Là, tu m'as presque fait peur pendant 2 secondes.
Non mais c'est quand même une sacrée indignité, non?
Et pendant ce temps-là, non.
Dans ce temps-là, Nantes, il se passait quoi, Karim?
On va commencer avec les petites infos tranquilles, parce que il va en avoir besoin un petit peu pour un prêt. Vous serez déjà, dans un premier temps, très satisfait ou pas de savoir que le FC Nantes a fait match nul contre le FC Sochaux Montbéliard le samedi 13 avril 91.
Yes.
Voilà. Yes.
Voilà. C'était l'info qu'on attendait tous.
Alors, putain, attention, c'est trop, qui trop de joie. Ce qui leur permettra de maintenir la 12e place de la D1, parce que oui, la Ligue 1, ça n'existait pas encore, et on achetait encore ces clopes en franc. Alors, pour continuer un peu sur avril, le 18 avril 1991, aussi l'inscription au titre des monuments historiques de l'hôtel Allard. L'hôtel Allard, qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel particulier bâti entre 1828 et 1856, situé au numéro 1 de la place Général Méliné. On s'en fout pas mal, mais j'ai essayé de vous apprendre un truc. Non, la vraie info importante, en fait, c'est bien sûr l'inauguration du pont de Cheviré.
Oh.
Donc,
le fameux casse-couille.
Oui, mais tellement. Un pont routier, 2x3 voies, permettant la N844, faisant partie du périphérique nantais, de franchir la Loire à l'est de Nantes. Il est inauguré le 27 avril 91 par notre ancien Premier ministre Michel Rocard, qui n'est pas la version Wish de Paul Ricard. Ce pont, en tout cas, a été un beau challenge technique. Je vais vous gaver de chiffres. Une longueur de 1563 mètres pour une portée principale de 242 mètres et une hauteur de 52 mètres pour le passage des gros navires. Un beau bordel qui a coûté quand même 275 millions de francs de 1987. Donc, tout ça pour dire en fait que c'est un beau merdier qui bouge tous les soirs et transforme ma compagne qui l'emprunte 2 fois par jour en Diabolos ou Satanas. Je voulais choisir. Autre nom à retenir dans les fondations du pont, c'est celui de Michel Zinetti, car la légende veut qu'il soit réellement englouti dans l'un des tuyaux, en fait. Là, c'est le moment où je passe un peu en mode faites entrer l'accusé, donc je vais pas imiter Christophe Ondelat, mais l'intention y est. Donc, un peu de contexte pour comprendre. Okay. Nous sommes le 30 avril 2006. Sur les berges de la Loire à Frossay, un promeneur découvre le corps d'un homme en état de décomposition avancée.
Ah,
la victime est rapidement identifié, Bernard Algré, 58 ans, disparu mi-décembre de son domicile de Bénod. L'enquête mènera directement à Tonio Freitas, un patron de bar de nuit implanté quai de la Fosse et à l'Écharco à Nantes, désigné comme le commanditaire de l'enlèvement. Je préviens, je passe un peu en mode Scarface, torture porn et désolé par avance.
Okay.
L'autopsie confirme que le calvaire a été enduré pendant plusieurs heures par la victime. Bernard Algré a été sauvagement frappé, ses ravisseurs lui ont tiré des balles dans la jambe, puis transpercé les genoux à coups de perceuse électrique.
Okay.
Ils lui ont aussi enfoncé une barre de fer dans l'anus et envoyer des décharges avec une matraque électrique avant que l'un d'entre eux ne l'achève en lui fracassant la tête.
Oh, la violence.
Le cadavre sera ensuite lesté et jeté dans la Loire. L'enquête sur...
Bienvenue à Nantes. Ouais.
Exact.
C'était mieux avant à Nantes.
L'enquête sur ce petit meurtre entre amis s'oriente rapidement vers le monde de la nuit nantais en raison de l'activité des fréquentations, un peu du bordel que c'est. Bernard Algré, la victime, a déjà eu quelques démêlés avec des figures du milieu nantais et notamment Tonio Freitas. Quel rapport avec entre Michel Zinetti, coincé dans le poteau, et Antonio Freitas? Eh bien, Tonio Freitas est déjà au cœur de sa disparition, celle de Michel Zinetti, un restaurateur et patron de bar nantais, disparu en 90. Le cadavre de Michel Zinetti, à en croire les légendes, est écoulé dans le béton de l'un des piliers du pont de Cheviré, alors en construction, et n'a, pour de vrai, jamais été retrouvé. Comment conclure tout ça? Eh bien, dites-vous qu'à chaque fois que vous prendrez le pont de Cheviré, vous serez potentiellement en train de rouler sur une copie moins fun de Han Solo dans l'Empire Contre-Attaque, je serais certainement le pire guide touristique nantais du monde.
Ça me fait trop, attends, ça me fait trop penser quand même à C'est arrivé près de chez vous.
Ouais, aussi, ouais.
Le mec a tout pompé quand même sur le film, tu vois, genre aucune originalité, il va couler des
le
personnes dans le béton.
Le film est
quoi.
Sorti en 92, ouais. Techniquement, c'est
ouais,
le
c'est
film
qui s'est inspiré
de ça.
Là, c'est possible.
Il y a pas tout un délire aussi avec le milieu nantais, tout ça?
Si, alors je suis pas allé, alors j'ai passé une après-midi super parce que en vrai j'étais désespéré sur quoi dire en avril 91 et de clic en clic obscur, je suis tombé en mode pont de Cheviré cadavre, j'ai fait moi cadavre.
Ouais, et je suis content.
Et en vrai, je suis tombé sur, et je remercie ces gens qui ont la foi de faire des skyblogs de 50 pages.
Oh là là.
Ouais. Voilà. Et en vrai, Nantes, bah, un peu comme toutes les villes, mais ouais, Nantes, Messrine, il n'y a pas que à Paris, tu vois. C'était, et apparemment, ouais, il y a une grosse pègre à Nantes, ou en tout cas, dans les années 90, il y a une grosse pègre. C'était très, très chaud. Très, très chaud.
Plutôt années 70-80, quoi, mais ouais, une grosse.
Mais l'histoire du Tonio Ferreira, dans l'idée, à l'heure, en fait, où il a eu la condamnation, c'est en 2006, il avait 68 ans, s'il te plaît. Genre le mec, c'est les Sopranos, il s'arrêtera
oui,
jamais. Tu vois.
Bah ça garde la forme.
Ouais.
Et d'ailleurs, en parlant de pont de Cheviré, ça fait 10 ans qu'il est éteint parce que il y a des gens qui ont volé les câbles électriques.
Ah ouais. C'est le fantôme de Michel.
Et ils ont dit qu'ils les remplaceraient pas, donc bah il y a plus de lumière sur le pont de Cheviré.
C'est vrai. Si la personne voulait bien les rendre, s'il te plaît.
S'il vous plaît.
Le pont, c'est une épave, quoi.
Ça se trouve, le mec, il a chopé les câbles pour faire les arbres de Noël, un truc comme ça. T'sais. Je me suis fait dire, Irlande.
C'est la commune qui a fait ça, mec.
C'est un coup monté de la commune pour se faire rembourser.
C'est Jean-Marc.
C'est encore un coup de Jean-Marc. Quel salaud. Allez, on va passer maintenant à quelque chose de moins cool. Le cinéma. Et ce qui se passait en 91.
T'es officiellement sûr ou pas?
Non, il y a plein de bons trucs en 91.
Ouais, c'est pas ça le problème.
Alors, Manu, fais-nous rêver.
Je vais me faire rêver. Comme le disait Pezzo, il y a eu plein de bons trucs en 91. Le problème, c'est que il y a quelques mois, on a traité Boys from the Wood, qui est sorti en 1991. Et j'étais tout content de me voir confier cette rubrique. Du coup, j'ai absolument poncé le box-office à l'époque. ça me laisse pas grand-chose pour ce soir. Merci moi-même. Donc on se concentre. Moi aussi, je me concentre sur le mois d'avril avec un petit zoom, du coup, puisque c'est le mois de sortie d'Edouard Romain d'Argent. Je vous en avais déjà parlé pour commencer ce mois. En entrant dans le mois, on trouve le gros film, un des gros films de l'année, non, le gros film de l'année de mémoire d'ailleurs, Danse avec les loups, qui était en tête de classement encore à cette époque-là, malgré sa 7e semaine d'exploitation. Mmh. En général, tu te fais sortir au bout de quelques semaines, quoi. Mais suivi de très près par deux sorties, on avait Madame Bovary de Claude Chabrol, qui a failli prendre le lead puisqu'ils doivent être à moins de 1000 places vendues cette semaine-là, ce qui est plutôt pas mal.
Ah, mais c'est le Claude Chabrol à l'époque, c'était le Avenger, hein, c'était le Marvel qui faisait sortir les petits vieux. Hein.
Ah bah, mais pendant longtemps, hein, pendant longtemps. Je pense qu'il y a plus de Claude Chabrol qu'il y a de Marvel Studios, donc peut-être qu'ils tiennent le lead encore. Et c'était suivi de très près par Allô Maman, c'est encore moi, donc deuxième film, il me semble, deuxième film de la saga. Mm. Petite particularité, dans le top 15 des meilleures entrées cette première semaine, on retrouve un film qui en est à sa 54e semaine d'exploitation.
Oh putain.
Est-ce que vous saurez deviner de quoi il s'agit? Il est sorti du coup en mars 1990.
Ouais, c'est ce que je me disais, s'il y avait 54 semaines, c'est au moins plus d'un an, quoi.
Ouais, c'est un film français.
Les Visiteurs?
Les Visiteurs?
Non.
Non.
Un Indien dans la ville?
Non.
Le Dîner de
Con... Plus tard, tout ça.
Le Grand Bleu?
Non, c'est plus vieux.
Alors, c'est un film de Jean-Paul Rapneau.
Ah, oh, putain. Cyrano de Bergerac.
Cyrano de Bergerac.
Je
cherchais ce putain de film.
Donc, il se plaçait quand même bien, hein, pour sa 54e semaine. C'est le seul film qui dépasse les 10 semaines, en fait, qui est dans le classement.
C'est ouf, quand même. Cyrano de Bergerac, quoi. Le film qui tourne encore, quoi.
Non, mais il y a deux parvues, les gars.
Il y en a 54 semaines d'exploitation au cinéma.
Ouais, c'est ouf.
C'est, à part des ressorties, t'as rarement ça.
Ouais.
En seconde semaine, notre film, Édouard aux mains d'argent, entre en jeu, mais ne décroche même pas le top 5, puisqu'il se place 6e avec un peu plus de.
Tu m'étonnes.
19 000 entrées sur Paris. Car oui, je ne l'ai pas dit, mais à la semaine, on a les chiffres de Paris. Hein, parce qu'il n'y a que Paris qui est représentatif, donc on s'en fout de la province.
Bah, c'est la France. Hein, Paris,
Nantes,
c'est la France.
Ici Nantes. Devant lui, on trouve deux autres nouvelles sorties qui ont bien marché. Le numéro 1, on en a déjà parlé quand on a parlé de Boys from the Wood. C'est pas Danser avec les loups, c'est Le silence des agneaux.
Ouais,
il fait plus de 100 000 entrées en première semaine. C'est un succès surprise parce que personne, enfin, il avait un bon succès critique, mais personne l'attendait trop à l'époque. Jodie Foster, Anthony Hopkins n'étaient pas les stars qui sont devenus par la suite. Les gens commençaient à les connaître.
Jodie Foster, c'était une rookie. Par contre, Anthony Hopkins, c'était déjà un routier.
Ouais, c'est un. Ouais, mais.
Jodie Foster, elle avait fait d'autres films avant.
Oui, elle a fait d'autres films.
Elle a fait Taxi Driver quand elle était petite.
Elle a fait Taxi Driver quand elle était ado.
Bon, quand même, c'est pas mal pour un début de carrière. Hein.
Ouais, c'est pas mal, mais de là à ce qu'en France, période sans internet et fin de guerre froide, parce qu'on est littéralement l'année de la guerre froide, je suis pas sûr que voilà, la popularité était la même. Donc ça fait plus de 100 000 entrées, ça se place loin devant le deuxième, qui est Pour Sacha d'Alexandre Arcadi, avec Sophie Marceau, Richard Berry. Ouf. Là, je me rends compte qu'à chaque fois que je fais un box-office, il y a Richard Berry quelque part.
Le mec s'infiltre.
J'ai hâte de tomber sur une.
Tu es traqué par Richard Berry, tu ne le sais pas encore.
Ouais, peut-être, non, mais je sais pas. Peut-être qu'il est tout le temps là, en fait, tout simplement. Il le sera peut-être plus bientôt, d'ailleurs, parce que lui, il a un petit truc qui est tombé récemment. Donc, ouais, peut-être qu'il y aura un peu moins de films avec lui par la suite. Parce que
c'est dans
la
sa fille,
c'est toujours une réalité, hein, comme on le sait. Lui fait dans les 78 000 entrées, donc il est quand même loin derrière Le silence des agneaux. C'est aussi le moment où Danse avec les loups commence à plonger, puisqu'il perd 40 000 entrées en une semaine.
Oh.
Et se place tout de même troisième avec 58 000 places vendues, mais il a pris cher en une semaine. Il s'approche quand même doucement du million. À ce moment-là, il est un peu en dessous des 900 000 entrées vendues. Pour nuancer un peu, tous les films du top 5 sont diffusés dans au moins deux fois plus de salles qu'Edouard aux mains d'argent, qui confirme le peu de confiance des exploitants dans le film, qui avait également peu performé aux USA à sa sortie un peu avant. C'est-à-dire que Tim Burton avait réussi son Batman et le second arrivait un an après, je crois, c'est 92.
C'est ça, ouais.
Mais c'était le premier opus du duo Depp-Burton, là où depuis on en a eu 1517 à peu près. Et du coup, on ne savait pas encore à quoi s'attendre. Johnny Depp, à l'époque, c'était personne. Quoi,
c'était un cinéma d'auteur, ouais.
21 Jump Street.
Ouais, ou 21 Jump Street.
21 Jump Street, ouais, c'est ça, ouais. Mais,
Freddy, il avait fait ça.
Arizona Dream, non?
Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que 21 Jump Street, voilà, ça a une aura parce que c'est une série d'époque qui est devenue un peu culte et il y a eu un remake, mais c'était pas terrible, quoi. C'est pas ça qui allait vendre une affiche, en tout cas, à ce moment-là. La semaine suivante, il perd d'ailleurs 8 de ses 18 salles. Il était sorti dans 18 salles à Paris, il est dans 10 salles en semaine 2. Il perd quand même qu'un tiers de ses entrées, donc c'est pas mal. Hein. Il a su se maintenir. Je pense qu'il y a eu un bon bouche à l'oreille à l'époque, mais qu'il n'y avait pas un grand nombre de salles pour le voir. Il se prend tout de même une branlée par Arachnophobie de Frank Marshall.
Magnifique,
c'est génial, je le déteste.
C'est génial.
Qui fait plus d'entrées en une semaine que Édouard aux mains d'argent en deux semaines. Et c'est surtout par un film de 1950 ressorti en salle par Disney. Est-ce que vous avez une idée?
1950
de
Fantasia?
Non.
La Belle et la Bête?
Non.
Attends, 1950. C'est pas Blanche-Neige, c'est.
Merlin?
Ah, c'est... Alice?
Non.
C'est plus dans l'époque Merlin, ouais.
Mary Poppins? Non.
Non. C'est un grand classique Disney. Hein.
Bernard Bianca?
Non.
70.
Non, Bernard et Bianca, c'est.
Fin 70, Bernard et Bianca.
Ok.
Robin
des Bois.
Ah, Cendrillon.
Cendrillon, ouais. Cendrillon qui du coup est sorti en 1950, ressorti par Disney en 1991, se place deuxième en faisant 78 000 entrées sa première semaine. Donc grosse branlée, Edouard, hein, désolé. toujours d'ailleurs derrière Le silence des agneaux à ce moment-là. Il se retrouve également devant un nouveau film un peu chelou de Jean-Pierre. Un nouveau film un peu chelou de Jean-Pierre Jeunet. Délicatessen. Il cumule 46 000 entrées sa première semaine.
Très bon film.
En dernière semaine, Edouard Romain d'Argent sort complètement des classements. Il y reviendra jamais. même si on note très très peu de nouvelles sorties cette semaine-là, toujours dominé par le duo Jodie Foster-Anthony Hopkins. Cependant, un autre grand réalisateur prend sa petite branlée cette semaine-là en faisant encore une moins bonne première semaine que Tim Burton. Il s'agit d'un film avec Val Kilmer, qui raconte la vie d'un grand rocker et du groupe qui l'accompagne.
The Doors.
Parce que vous voyez de quoi je parle.
Ah, ouais.
The Doors. C'est The Doors d'Oliver Stone avec Val Kilmer en Jim Morrison.
Tellement en plus, c'est où dans ce film.
Et qui fait que 12 000 entrées sa première semaine. Mais en fait, je triche un peu.
Oh.
Parce que le film n'était pas vraiment sorti. Et en fait, il a fait 12 000 entrées sur des avant-premières.
Oh.
Et c'est pas mal. Il arrive la semaine d'après, il met une grosse branlée, il prend la première place au Silence des Agneaux. Donc j'ai un peu triché. Désolé, mais c'était histoire de donner un peu d'intérêt à cette rubrique qui était, somme toute, assez fade.
T'as l'air de bien faire flipper quand même Arachnophobia.
Ah, Arachnophobia, c'est pas bien parce que d'un coup, quand tu t'imagines qu'une toute petite araignée que tu peux voir chez toi peut te tuer et qu'en plus elle est suffisamment intelligente pour te traquer, moi je l'ai vu, j'étais moins de 10 ans, je m'en suis pas remis. Alors ça doit être très. Faudrait que je le re-regarde parce que ça va peut-être le démystifier, mais non.
Eh ben figure-toi que j'ai jamais vu Arachnophobia.
Ça a l'air vraiment flippant en fait, rien que les photos.
Bah, je suis allé mater justement quelques photos du film et ça m'a pas donné super envie. Mais tout ça pour dire que la prochaine fois, j'essaierai de garder un peu des trucs sous le coude quand on traitera une année, histoire de pas me piéger moi-même pour un futur podcast. Mais voilà, à vous les studios.
Merci Manu pour la revue du box-office.
Tiens, il y a une ou deux semaines ou un mois, qui a ramené le gilet jaune de son père ou sa mère et il a manifesté dans la cour.
Oh, c'est affreux, ils vont faire sauter toute la planète. Je t'empêcherai de détruire la Terre. Tu entends, je t'arrêterai.
Carré, c'est toi qui vas trancher Justin Bieber ou One Direction?
Bon, les couilles, frère.
Mais c'est de la merde.
Allez, Yuna, qu'est-ce qui se passait-il en 91 dans le petit écran?
Eh bien, en 91, j'ai bien failli être en panne d'inspiration comme ça a été le cas de Manu, parce que, bah oui, 91, j'avais un petit peu poncé aussi pour l'épisode de Boys and Hood. Je garde sous le coude pour la troisième fois la première de Bouillon de Culture, ainsi que la diffusion de Maigret avec Bruno Kremer.
Allez, oh, t'aurais dû. Non, Yuna.
En 91, on va parler avant d'une des plus anciennes émissions scientifiques qui est toujours en production actuellement.
Le Galactus. Putain, on dirait une musique de Crash Bandicoot.
Ouais, grave.
Oral B.
Mais ça veut dire que c'est 30 ans de la Game 6 là et qu'il n'y a pas des affiches partout pour célébrer ça?
J'avoue.
Est-ce que McLesky est un clone?
Donc derrière l'émission Game 6, donc il y a deux ingénieurs agronomes, donc Nicolas Goldzahl et Olivier Lesgourg, donc qui est plus connu sous le nom de McLesky, qui s'est formé sur les métiers de la télévision en outre en 90. Pourquoi je parle de ça? Donc je mentionne l'académie Cara Espace parce qu'en fait ça commence par un concours de jeunes talents de cette école. Donc les deux copains sont sélectionnés par le jury dont fait partie le PDG et le DG adjoint de M6. Et donc se renforcer de ce concours, ils commencent à tourner un pilote en 90 avec McLesky devant la caméra, presque par coïncidence parce qu'au final c'est juste qu'ils n'avaient pas les moyens de payer
un animateur quoi,
une autre personne. Voilà. Et ils ont finalement été choisis pour le créneau du dimanche matin.
Ah, c'était le dimanche matin.
C'était le matin avant.
C'était dimanche matin avant, oui.
Ah ouais, et toi là-bas, viens là.
Ouais,
vas-y, mets-toi devant la caméra.
Elles sont marrantes, ouais, c'est tes lunettes, souris.
Ça fait bien scientifique. Ça, c'est cool, ça.
Et donc, effectivement, ben, comme vous le savez, l'été tourne autour de l'actualité scientifique, mais rebondit également sur les actualités. Par exemple, la sortie de Jurassic Park, ben, ils ont parlé des dinosaures. Ou les décryptages du quotidien des Français. Enfin, voilà, c'est un peu plus ludique. Donc, maintenant, ce qui est bien aussi, grâce à ce genre de jeu, c'est que tu peux tourner en plein de jeux de société et puis vendre tout un tas d'articles comme des dentifrices, des brosses à dents et autres produits où tu portes une veste blanche et tu dis que c'est de la science.
Anecdote qui sert à rien, mais je m'en fous, je l'ai servi.
Tu l'as...
Quand j'étais barman.
Oh, yes.
Il était venu dans le bar, il avait pris deux cocktails.
Et comme client, il est comment?
Bah, est-ce qu'il est sympa?
Un brave type, franchement, très gentil. Il est arrivé, il a dit bonjour, il est parti, il a dit au revoir, donc c'était
10 sur 10. Ouais.
C'est mieux que la plupart des gens.
Donc restons dans les programmes éducatifs et parlons dessin animé. Il était une fois. Alors je triche un peu parce que la série a été créée par Albert Barillet avec Il était une fois l'homme, donc c'est ça, c'est en 1978. Donc il retrace les grandes histoires, les grandes étapes de l'histoire de l'homme via les archétypes de personnages. Hein. Donc Maestro, c'est le vieux sage barbu, donc il y a Pierre, c'est le héros, le sidekick. Donc il doit avoir une femme, donc sa femme elle s'appelle Pierrette, logiquement. Et le nabo et le teigneux représentent tout ce qu'il y a de... de mauvais dans la nature humaine.
Dont Nicolas Sarkozy. Parce que
la vraiment... oui. On parle de Nabo et de Teigneux, donc bon.
principalement dans Il était une fois la vie, il y a. Alors, c'est des microbes, je ne sais plus lesquels. Je te jure, ils ont la même tranche que Nicolas Sarkozy.
Attends, je vais taper microbe Nicolas Sarkozy sur Google Images pour voir.
je vais voir ta tête et je pense
microbe
que tu vas
acquiescer.
Microbe Sarko, la vie.
Ah, mais oui, mais si. Ah, mais si, non, ah mais je n'ai même pas besoin de regarder, mais je me rappelle de la tête des petits personnages.
Ah, c'est incroyable.
Ok, effectivement, ça a tellement marché qu'après, il était une fois l'homme, donc il y a eu, il était une fois notre terre, il était une fois la vie, donc avec les microbes, il était une fois les découvreurs, les explorateurs, l'espace, qui est la dernière, et donc celle sur laquelle on va s'attarder, c'est il était une fois les Amériques, où effectivement, Nicolas Sarkozy est toujours le méchant. Hein.
Vous les Indiens, je vais tous vous niquer.
Ils ont gravé des océans, ils ont franchi des continents, poursuivant leur rêve.
On dirait un tube de l'Eurovision des années 70. Ouais.
Donc on parle bien des Amériques, hein, au pluriel, donc ça commence en moins 3000 avant JC, quand les continents n'avaient pas tout à fait la même place. Donc, on parle de l'Alaska, le Canada, jusqu'à l'Amérique du Sud et la culture maya. Donc on parle forcément de colons, la ruée vers l'or, l'esclavagisme, toutes ces joyeusetés.
Grand moment.
Le temps béni des colons. Ah,
donc effectivement, les archétypes, rappelons-nous des archétypes. J'ai regardé un épisode qui était sur la ruée vers l'or, si je dis pas de bêtises, ou non, sur la fin de la guerre de sécession. Je vous laisse deviner qui était le sudiste. Et là, oui, mais lui, il est noir, on va pas lui donner un poste, il va nous voler avec tous les clichés que...
C'est Sarko ?
Bah oui.
Ah bah oui, sans avoir vu l'épisode. Hein.
Restons sur les dessins animés, et restons sur le thème de l'Amérique. Je vais vous mettre un autre générique.
Jumper. Allons pour chasser ces saltimbanques.
Je vous en débarrasser, moi.
Il y a beaucoup trop de refrains à Sarkozy, faut arrêter là.
Stop, stop, s'il vous plaît, stop. Est-ce qu'on est politisé?
Joe Dalton, Sarkozy, même combat. Exactement.
Donc avant de parler de Lucky Luke, effectivement, je vais voir vous parler un petit peu du dessin animé de 83, parce qu'en fait, celui de 91 est dans la continuité. Donc c'est une série de 26 épisodes qui était produite partiellement par Hanna-Barbera avec Extra Film, Gaumont et FR3. Sauf que pour pouvoir être diffusé aux USA sans avoir la censure, il a fallu s'adapter un peu. Donc c'est notamment grâce ou à cause de ça qu'il n'y a plus de cigarettes.
Oui. Donc
Lucky Luke a arrêté de fumer grâce à la censure américaine.
Les guns, ça va, mais les clubs.
Et la BD a suivi le mouvement. Plus de minorités ethniques non plus. Les croque-morts, les Indiens de façon trop clichés ont été limités. Et de l'autre côté, par contre, on voit plus d'animaux s'exprimer comme Jolly Jumper ou Rantanplan.
Okay.
Donc ça pour dire que cette version 83 elle a moyennement marché aux USA, donc Hanna-Barbera a préféré retirer ses billes au profit d'une autre société, et donc les contraintes qu'elle avait, elles ont sauté pour certaines d'entre elles. Donc en 91 on retrouve un petit peu de minorité, un peu moins d'animaux parlants, Et par contre, il y a le tabagisme qui, enfin le non-tabagisme en fait de Lucky Luke qui est resté. Une série de 26 épisodes également qui sont issus de tomes différents de la BD par rapport à 83. Donc pas sur le même créneau horaire. Le dimanche après, au lieu du soir.
Ouais, on s'en souvient.
Qui en ont les souvenirs, donc qui est passé un peu plus inaperçu comparé à cette première version et comparé à celle d'après. Si vous vous rappelez, il y avait une version quelques années plus tard avec Antoine Decaune.
Oui. Ouais, un peu plus rock là.
Les nouvelles aventures de Lucky
Luke.
Oui,
c'est ça.
Je pense que je suis resté à celle de 91, moi.
Pareil, enfin, j'ai connu celle de.
Ouais, pareil.
Plus tard, ce que mon petit frère a regardé, mais celle que. Mais surtout, j'aimais pas Lucky Luke, donc en fait.
Voilà. Qu'est-ce, qu'est-ce que t'as contre Lucky Luke?
Rien. En fait, j'aime pas. J'accroche pas. Mais en vrai, il m'est pas insympathique. Hein. Je veux dire, juste, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, j'ai essayé mon BD.
Je trouve pas ça super intéressant, Lucky Luke.
Ouais, j'aime bien, moi.
Après, je peux comprendre, hein, ça semble, mais je crois que j'ai le délire cowboy indien, c'est pas trop ma cam, donc à partir de là, voilà.
Ah, je vous préviens, il y aura pas de troisième épisode sur 91, hein, j'ai déjà pris des chemins détournés pour en parler. Et donc, je vais parler d'un dernier format animé, et pas des moindres, parce qu'on va parler de Nicky Larson.
Ah.
Et vous me direz, c'est pas tout à fait 91, c'est 90 en France. Et Vivien, en plus, on a déjà parlé à l'épisode sur 85 par rapport au manga, donc moi, je restais plus sur la partie. Sur la partie télé. Mais en 91, en fait, c'était surtout ce second générique que je voulais partager, qui est absolument sublime.
C'est fait, tu peux couper.
Le générique est aussi.
Nul, c'est naze.
T'as mis le refrain, c'est parfait, voilà.
Contrairement à la légende, donc ce n'est pas Bernard Minet qui chante.
Non.
Mais une personne qui s'appelle Jean-Paul Césari, que je ne connais pour absolument rien d'autre que le générique de Nicky Larson.
Grande carrière.
Je pense que tu n'es pas seul.
Donc Nicky Larson qui a eu une grosse opération édulcorant entre le manga et l'animé, déjà entre l'animé japonais. Donc avec l'onomatopée Mokori, qui veut dire érection, qui a été complètement supprimée, hein, pour des raisons qui semblent évidentes. Ah, parce qu'effectivement, dans le manga, il y avait beaucoup de gros plans en fait, de son entrejambe dès qu'il voyait une jolie femme. Donc tout ce qui est lié au cartel de la drogue, effectivement, est censuré également. Et effectivement, la VF, elle adoucit encore plus tout ce lien avec la violence et la nudité. Et toutes ces scènes où Laura... Donc Kaori dans le manga passe pour un homme ou se travestit. Voilà, ces scènes-là, elles ont été complètement dénaturées. Enfin, soit en les effaçant, soit en changeant complètement les dialogues qui perdent le sens premier. Quoi. Et ce point-là est l'occasion, en l'absence de Vivien toujours, tu te pensais pour lui, de faire un point Ségolène pour l'occasion. Parce qu'en 91, donc, il y avait déjà des pressions d'associations familiales et du CSA. Hein, c'était pas tout à fait nouveau. Donc concernant Ken le survivant, dans un premier temps, ainsi qu'un dessin animé musulman qui avait carrément disparu du Club Dorothée pour des scènes de violence et de meurtre. Hein. Donc en 91, on franchit une nouvelle étape suite à un épisode de Dragon Ball Z et de Superboy où il y a un des personnages en fait, qui portait un symbole nazi.
Pas un symbole nazi.
C'était un nazi, il était méchant, mais je crois qu'après, il est un petit peu sur le retour, il devenait un peu gentil. Donc voilà, ça c'était...
C'était le cochon, non ?
Il y a Oolong au début qui a... Tu peux voir dans les premières versions de Dragon Ball, en fait, des svastikas. Ouais. Donc effectivement, détourné, c'est la croix gammée, mais de base, c'est un symbole qui existe. Et c'est quelque chose que tu peux revoir, en fait, souvent, en fait, dans les œuvres japonaises. Donc je peux comprendre qu'européen, tu comprennes pas, mais tu peux chercher un peu quand même, tu vois.
Le Japon n'a pas du tout le même rapport sur ces questions-là que les Européens. Hein.
En plus.
Après, moi... Putain, je veux pas faire le vieux réac, mais...
Oh là, tu la sors. On peut plus rien dire.
Non, mais en fait, Karim, il fait, oui, tu peux te renseigner tout ça, mais quand t'es gamin, que t'as 6 ans, que tu regardes le Club Dorothée, en 91, tu vas pas sur Wikipédia voir
c'est pas au gamin qui dit ça, c'est pas au gamin qui dit ça, c'est Ségolène Royal, en fait.
Franchement, les gars, vous connaissez Arc Auteuil?
Ouais.
La chaîne,
oui, voilà. J'en ai parlé dans mes recos.
Ouais, et ben il a fait un épisode justement où lui il a lu tout le bouquin de Ségolène et il fait un peu les amalgames et tout ça, et en fait il remet un peu les choses au point, et En fait, je dis pas qu'elle est toute gentille, mais en fait, il y a des fois des petites déformations du propos qui sont faites avec le temps et la culture pop, et puis l'énervement de notre génération à juste titre. Voilà, lui, il remet juste un peu les trucs au point, et je vous le conseille, il est vraiment bien renseigné et très intéressant, et ça permet de changer un peu le regard. Par exemple, il explique qu'elle cite quasiment pas le Japon, en fait. C'est souvent des amalgames qu'on fait dans ce truc, mais dans son bouquin, il y a genre 10 fois le mot Japon sur tout le livre, en fait. C'est donc il y a des choses. Elle est pas toute blanche, mais elle est pas aussi dans l'affaire. Elle est pas toute blanche dans l'affaire, mais elle est pas aussi coupable que ce qu'on veut laisser entendre.
Ouais, non,
aussi,
mais il y a peut-être un engouement populaire à lui cracher sur la gueule. Ouais. Ça, je veux
donc,
bien
du
t'accorder.
C'est
un petit plaisir aussi. On va pas se mentir. Ouais.
Les mangas sont peut-être dans le Japon plus destinés à un public adolescent, jeune adulte. Ouais, en fait.
Si tu prends carrément Nicky Larson, là, on a franchi un step. Mm. Parce que dire que Nicky Larson, City Hunter, que ça soit c'est en animation ou en manga. Ouais, c'est un seinen, vraiment. C'est prévu 16-30 ans. Donc déjà, c'est comme qu'elle ne survivant, c'est parti. Des aberrations, on en veut à Ségolène, mais on peut aussi en vouloir aux gens qui distribuaient tout ça parce qu'ils ne regardaient pas ce qu'ils achetaient. Et c'est affolant parce que d'un coup, tu te retrouves à devoir prendre des mesures qui sont complètement cons. Moi, j'ai du mal à comprendre les gens qui sont ultra nostalgiques de ça, mais ça, c'est perso. Et c'est vraiment du foutage de gueule, tu vois, je veux dire. C'est...
Le Club Dorothée, il faut dire que la tranche d'âge visée, c'était entre 4 et 14 ans. C'est absurde quand ils pensent.
Enfin... Moi, j'ai vécu cette époque-là et j'ai eu le souvenir de ma daronne qui n'était pas prête. Hein. Qui était absolument pas.
Non, mais en vrai, ça, c'est le genre d'animé qui aurait dû être plutôt sur Canal Plus après, tu vois, comme GTO ou Cowboy Bebop ou tout ça.
Destiné à son public, il était d'origine, en fait, tout simplement.
À l'époque, il réfléchissait pas en termes artistiques ou qu'est-ce que ça apporte, que raconte le manga.
En termes rentables.
En fait, ils étaient quasiment dans la recette. Hein. Non, ils étaient carrément dans la recette en disant, bah voilà, on doit avoir une case dessin animé pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter pas cher. Et qu'est-ce qui est le moins cher du marché? C'est les produits japonais.
J'y viens tout de suite, justement. Parce que, donc en 90, parmi ce lot de remontées, de censures, etc., donc il y a une loi qui impose un quota 60% des programmes qui doivent être européens. Donc ce qui pousse d'une part à diminuer la proportion de programmes japonais. Mmh. Et le point AB Productions, on y arrive. Donc a suivi le mouvement en achetant, en achetant d'une part les droits sur tout un tas de séries allemandes, en rachetant quand même en parallèle d'autres droits sur d'autres animés. Hein. Ils ont quand même continué à développer sur le Japon, qui était précédemment diffusé sur la chaîne La 5, et qui a été revendu par Berlusconi en janvier 91.
Mais c'était sa chaîne, La 5, Berlusconi, La 5, ouais.
Et c'est comme ça qu'en fait, en 91, d'un côté, on limitait le Japon parce qu'il fallait 60% d'Européens. Et en parallèle, il y a eu tout un tas d'animés qui sont arrivés sur Club Dorothée en conséquence de cette loi.
Je rebalance ma ref Archeo Toys parce que du coup, il parle aussi... Il y a un de ces épisodes où il parle en fait qu'il y a tout un truc où que les studios français en fait faisaient faire leurs dessins animés en Corée du Nord en fait. Donc ça faisait...
Oui, il y avait
60% de la page qui devait être du coup française, de la page des animés qui devait être français, qui en l'occurrence, si vraiment on avait le goût du détail du Made in France, on dirait que c'est plutôt Made in Korea, quoi. Mais et en plus celle qui fait au nord, quoi. Donc c'est pas la plus clean, quoi. Mais voilà.
Ah, mais c'est comme aller tourner son film chez les Ouïghours, quoi. Tu vois, c'est pareil.
Mais c'est ça. Mais c'est toujours une question de main d'œuvre par chair, parce que là-bas, les mecs, tu sais, ils font qu'appliquer, dessiner des scénarios envoyés depuis l'Europe, et l'Europe reçoit ses dessins animés. Et il y a Père Castor et tout ça. Il y a des épisodes de Père Castor qui sont nord-coréens.
Oui, mais c'est ils ont été animés en Corée du Nord, donc une main d'œuvre par chair. Et en fait, ils ont le tampon produit européen, quoi, parce que c'est des prods de prod européennes, quoi.
Et en 91. Je vais pas rentrer plus dans le détail, mais en 91, développement de AB Productions égale développement du AB Universe.
Ah.
Premier baiser en décembre 91.
Quel enfer.
Et je finirai cette chronique quand même pour laisser le petit goût de nostalgie. Donc le vrai générique de Nicky Larson en souvenir du bon vieux temps.
Ah, merci Yuna.
Que j'ai eu dans la tête pendant une semaine.
C'est vrai?
Oui. Un enfer.
Nicky Larson. Un coup de frein, des pneus qui crient.
s'appelle l'uniki dans la chaleur de la nuit. Le mal est toujours puni.
Oh non, c'est nul, oh.
Il va falloir que t'attendes le refrain.
Les affectionne et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent comme un éclair, il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne, Nicky Larson ne craint personne.
Un tube, mec, un tube.
En tout cas, j'apprécie que ce soit le Hit Machine avant l'heure, tu vois, un petit peu, quoi. Mais c'est une très très bonne transition en musique, hein, justement, pour aller, j'ai envie de dire, se plonger avec joie et allégresse dans le Hit Machine de 91.
Je me suis ambiancé quand même tout un dimanche avec
ah
ça.
Ah bah, j'imagine.
Il y a de quoi.
Il est temps que le confinement s'arrête.
Bon, déjà, on récapitule le podium que vous avez entendu début de l'émission. Donc, on avait en première position sur cette semaine Scorpion avec Wind of Change. Deuxième position, Rock Voisine avec Darlene. Et troisième position, Thierry Hazard avec Poupée Psychédélique. Les amateurs apprécieront. On passe sans transition tout de suite au petit fait marquant. Il y avait Michel Sardou qui s'est produit à Bercy du 18 janvier au 6 février. J'aurais pu vous dire qu'en 91, il y avait environ 14 millions de singles vendus et 108 millions d'albums vendus uniquement en France. Ou encore que c'était l'année de la création du groupe Oasis ou de la sortie de Joséphine de Bachung, mais je trouvais plus pertinent Sardou. voilà.
Merci, c'est gentil.
On revient sur notre éternel ratio naissance/mort. On est une nouvelle fois perdant en 91. Luc, je te laisse mettre la piste numéro 1 pour illustrer tout ça avec le timecode que je t'ai dit, si c'est possible. Ouais, il est né le 13 février 91, donc voilà, notre ami Vianney. Le 17 février, il y avait aussi Ed Sheeran.
quelle année, voilà. Quelle année, les enfants.
Que du bonheur.
Et quel mois.
T'auras décidé de nous punir à chaque
13
fois.
13 février, 17 février, c'est quel mois de février, quand même. C'était assez la violence, quoi. En décès, du coup, on avait le 2 mars Gainsbourg. Donc ça casse les couilles. Le 6 juin, on avait Stan Getz. On a eu Miles Davis le 28 septembre, Yves Montand le 9 novembre et le 24 novembre, Freddie Mercury.
Okay.
Pour ceux qui connaissent pas, Freddie Mercury, c'est le chanteur de Queen.
Voilà. Et heureusement, il y a Vianney qui est né, quoi.
Ouais, il y a Vianney, ouais. Bah, oui. Et alors,
putain, c'était change pas équivalent, quoi.
Ouais. Alors, il y a un autre grand nom de la musique qui est mort. Alors, il a pas fait de la musique à proprement parler, mais il a fortement aidé à ce qu'on en fasse. C'est Léo Fender. Léo Fender, c'est le créateur / PDG des guitares Fender. Et en fait, il a eu il a un peu révolutionné le monde de l'industrie musicale, parce que c'est le premier à avoir fait une guitare électrique avec un corps plein, en fait, et pas encore creux, quoi. Et ça vient du fait que à la base c'est pas un luthier, c'est un électricien. Il faisait des amplis et du coup lui il a juste mis des micros sur une planche de bois, il a dit vas-y joue avec, et c'est devenu la Telecaster.
Je vais bien se faire chier quand même.
Et après il y a eu la Stratocaster et tout ça, et puis en vrai c'est genre un gros mythe, le monsieur, quoi. Et il a perdu sa boîte parce qu'il a eu une grave maladie type cancer ou quoi que ce soit. Du coup, il a vendu la boîte. Du coup, Fender a été racheté par CBS, qui a littéralement coulé le navire, quoi. Et quand c'est en faillite, ça a été racheté par les employés de l'usine, et qui, eux, ont remis un peu Fender sur les rails de ce que c'est redevenu aujourd'hui, qui... sa gloire passée ou pas, chacun a son propre avis, mais qui est plutôt pas mal. Léo, du coup, lui, après avoir vendu en croyant qu'il allait claquer et que finalement il est resté en vie, a fait une autre société de guitare qui était JNL. Grosso modo, un très grand monsieur de la musique. C'est grâce à lui qu'on a de la guitare électrique. On passe à l'Eurovision, parce que du coup, j'en avais pas parlé pendant Boys in the Hood, donc je vais rattraper mes manques. Je te laisse mettre la deuxième chanson, s'il te plaît.
Bien sûr. C'est vrai. vraiment musique d'ascenseur.
Oh, ça pue le début des années 90.
Qu'il y a raison dans ta maison. C'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon que ton parent. C'est sans raison. Dis-moi au nom de quelle nation tu lèves le ton. Dans ma maison, ne gémis pas comme un violon sans partition.
Bon,
c'est une leçon.
Ouais, c'est bon, vas-y.
On a passé le refrain.
Ouais, c'est bon. Bon, tu laisseras en entier pour les auditeurs.
Non.
Non, mais tu mettras terre en fond sonore.
Pour mais bien sûr, mais tu me connais.
Du coup, c'était la 36e édition qui s'est déroulée le 4 mai 91 à Rome, en Italie. Cette édition a été marquée par deux faits. Le premier, c'est que je nommerai la panne. Parce qu'en fait, il y a une panne qui s'est produite. En effet, lors du passage de la Suède, le retour son de la salle s'est subitement coupé. Donc en fait, pour vous faire un image, le public n'entendait plus rien à part une meuf qui essayait de qui chantait, quoi, mais de très 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 loin, quoi. Genre, elle avait pas la voix assez forte. Ça doit foutre un peu les boules quand t'es candidat et tu dois vraiment avoir le seum pour l'ingé son qui a foutu de la merde dans la régie.
C'est pas JB.
Donc plongé dans le silence. Elle a, dans un grand moment de solitude, la candidate suédoise a quand même chanté dans un silence de plomb, certainement avec le public en train de gueuler en disant qu'est-ce qui se passe aussi.
Ma gueule.
Elle a pas perdu de son sang-froid et rien que ça, en fait, on peut lui féliciter. À savoir que le désagrément ne concernait que la scénographie, hein, enfin la scène. Les spectateurs et les jurés avaient le live comme ils devaient l'avoir. La candidate suédoise n'a pas démérité sa victoire parce qu'elle a terminé première malgré ça. Donc voilà, félicitations. Et à votre avis, après avoir entendu le magnifique son français, vous pensez on est arrivé combien?
Dernier.
Non mais ça c'est, je sais ça. On est arrivé deuxième avec le même nombre de points.
Oui, c'est ça. Alors du coup, on était alors je dirais mieux, on est arrivé premier ex aequo et en fait je vais vous expliquer les règles de ce que j'ai compris des règles de l'Eurovision, parce que c'était un peu le bordel. Déjà, c'était la deuxième fois de l'histoire du concours. La première fois, c'était en 69, que ça se conclut sur un ex aequo. Et en gros, le système de points, il marche de la manière suivante. Donc, chaque pays, il a des notes. La note numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il ne peut pas donner deux fois la même note. C'est-à-dire, tu vois, il a qu'un seul 12 à donner ou qu'un seul 1 à donner. Voilà, donc un point étant pas ouf. Et c'est un peu le pourboire, si tu veux. Et 12 points, c'est le coup de cœur, quoi. Et du coup, quand on arrive sur un ex-aequo de fait comme ça, en fait, les jurys comptent le nombre de 12. Et en fait, on a eu le même nombre de 12 points entre la Suède et la France. Le jury s'est dit, en fait, on va compter le nombre de 10. C'est là qu'on a un peu perdu le truc. C'est que qu'on a eu tous les deux 146 points. La Suède a eu un peu plus de 10 que nous. Mais ça casse les couilles. En fait, ça me fait penser à la Coupe du Monde de 2006. Tu vois, genre avec Zizou, il n'aurait pas tapé. Déjà qu'on gagne pas souvent l'Eurovision. Si en plus, quand on le gagne, on nous met deuxième, ça casse les couilles. Et en fait, ce qui a fait chier aussi, c'est que cette fameuse règle de compter les points, etc., elle date de, a priori, 1989, mais en fait, ils ont jamais éplé cette règle avant que ça arrive.
Ils ont inauguré, ils ont dit que ça marcherait pas trop mal pour niquer la France.
En fait, depuis 89, la règle existe, je mets des guillemets. Et en fait, c'est quand ils sont arrivés sur ex-aequo, ils ont fait... comme le dit la règle qu'on n'a jamais dit, faut qu'on compte les 12 points. Et comme on dit la règle qu'on n'a jamais dit, quand c'est pareil les 12, eh ben on va compter les 10 points. Donc autant dire que la France l'avait un peu mauvaise.
Et ça a foutu.
D'autant que si on a le même nombre de 12 et moins de 10, ça veut dire qu'il y a quand même plus de gens qui ont voté pour nous.
C'est ça. Et du coup, on a plus de pays qui ont voté pour la France, mais on a eu moins de bonne note entre guillemets, et du coup c'est là que c'est un peu injuste. Donc on est arrivé deuxième.
Je crois que c'est la dernière fois qu'on était aussi bien placé et on s'est fait enfler.
Pour toute la chanson était sublime, quoi.
Bah oui.
Pourquoi c'est aussi compliqué l'Eurovision?
Bah, je sais pas, faut leur demander.
C'est à l'image, c'est à l'image de l'Europe, mon gars.
Ah putain,
allégorie.
C'est la revue, c'est avec l'Europe, tu vois.
C'est peut-être moi qui explique mal aussi, mais bon, c'est.
T'aurais pu être député européen, toi aussi, mon gars.
Ouais, je pense. Ouais. Donc voilà, et genre, la délégation française a estimé que la victoire suédoise était imméritée, que c'était une fraude. En fait. ça allait loin.
Il y a eu un incident diplomatique.
Tout le monde a pété un câble et tout, tu vois, donc voilà.
À quel moment tu te permets pas de donner juste une première passe à l'égalité, en fait?
Oui, c'est ça.
C'est la meilleure règle, peut-être.
Je pense que le gagnant, il doit accueillir l'année qui suit, donc c'est dur d'accueillir dans deux endroits en même temps, je pense. On passe à la sortie d'un album. Du coup, j'ai décidé de parler de bonne musique dans ce top 50. Luc, je te laisse mettre la son numéro 3. Oui, c'est bien la sortie de Nevermind de Nirvana, donc le deuxième album du groupe, qui est sorti le 24 septembre, donc je triche un peu, hein, c'est pas le mois de sortie de Edouard Omad d'Argent. Donc Nirvana, pour ceux qui connaissent pas, les 3 millennials du fond de la classe, c'est un groupe de musique du début des années 90.
Te fous pas de la gueule des millennials, c'est nos auditeurs, putain.
qui a un peu changé l'industrie musicale dans les années 90, en fait, en popularisant les musiques dites alternatives, un peu underground, qui étaient réservées à un public un peu plus averti, on va dire, avant. Oui, c'est ça. Mais pas que. Ça a ouvert la voie à plein d'autres choses. Nirvana, c'était pas spécialement le premier. Enfin, il a pas inventé grand chose. C'est pas le premier à avoir fait du rock alté un peu énervé dans les années 80. Il y a déjà Pixies, Sonic Youth. Avant, en fait, ce genre de musique et de culture, ça passait pas à la radio. Enfin, pas sur toutes les radios, et ça inondait pas MTV, quoi. Et en fait, c'est grâce à l'album Nevermind que les choses vont un petit peu commencer à changer. L'album n'était pas fait pour marcher, hein. C'est il a été produit pour les aficionados comme moult albums avant lui. Le problème qui n'en est pas un, c'est qu'en fait, il y avait justement cette fameuse chanson Smell Like Teen Spirit sur l'album, qui a littéralement fait un carnage, un carton inexpliqué et complètement inattendu. Et en fait, qui a mis vraiment ce style, enfin, le rock, l'album et ce style de musique en premier plan du paysage musical, je dirais. Et du coup, tout ça, ça a fait, en fait, les majors, ils se sont dit, ah ouais, en fait, on peut vendre de la musique un peu plus qui change de nos éternels guitar héros, etc., qu'il y avait avant. Et en fait, du coup, le rock, après, il va commencer à se simplifier. On va pousser un peu les potards, on va jouer un peu plus vite, taper plus fort sur la batterie, enfin, tout ce qui va bien. Et c'est Nirvana qui a un peu lancé ce mouvement, et on peut leur dire bravo et merci, parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas eu White Stripe, Oasis ou Red Hot Chili Peppers, parce que ça aurait resté dans les bas-fonds de la culture un peu plus underground, et ça aurait pas été aussi médiatisé. Et à noter aussi que c'est sur cet album que le magnifique batteur Dave Grohl rejoint le groupe.
Bonjour monsieur.
Et que sans déconner, il est en grande partie pour quelque chose de la réussite pour moi de l'album, parce que ça en jette, quoi, sa batterie, quoi, ça te prend au trip, quoi. Voilà, C'était la petite minute. Des réactions.
Bah après, si, Dave Grohl. Dave Grohl à la fin.
Dave Grohl est un demi-dieu. Voilà.
Il lancera quelques années après Foo Fighters, après que les Nirvana soient morts.
Queen of the Stone Age.
Voilà, il est partout ce mec-là. Il a un talent fou, multi-instrument. J'ai un respect pour ce mec-là, mais genre. Et au-delà du fait qu'il soit batteur, hein, même si c'est le truc qui me plaît le plus, mais il fait des trucs trop cool. Il se cache la jambe sur scène, il se fait plâtrer en continuant son concert. Quand tu suis sur les réseaux, il fait des battles avec une gamine de 10 ans qui est ultra énervée à la batterie et lui il fait des battles avec elle en se marrant sur la batterie de sa fille. Ce mec là est cool, il fait tout bien, il sait chanter, enfin ouais, non, Dave Grohl et c'est un demi-dieu pour moi.
C'est voilà. Lui qui fait les chœurs aussi sur l'album, il fait pas que la batterie, il fait les chœurs aussi.
Ce mec là est transpire musique en fait, c'est fou. Rock principalement, mais pas que, parce qu'il fait aussi pas mal de progressif de son côté avec son instrument de chœur. Mais c'est musicalement c'est un ouf.
L'ingé son qui a mixé Nevermind, c'est Andy Wallace.
Ouais.
Et c'est l'ingé son qui a mixé le dernier album de Gojira. C'est le dernier album qu'il a mixé en fait. Et là, il est en retraite maintenant. Il a mixé tous les plus grands groupes
des années 2000,
rock
quoi,
ouais. Américains des années 90. Et donc,
Big up à lui aussi.
Il y a un truc que je trouvais fascinant dans Nirvana, c'est que c'était les premiers à faire des espèces de musique un peu crade, mais qui était déjà presque pré-programmée pour la radio. Parce que c'est fou, t'as toujours, sur cet album-là, et surtout bon, sur Smell Like Teen Spirit, t'as une construction qui est déjà très radio pour du rock. T'as
moins de 3 minutes de chanson.
C'est ça, t'as une grosse intro, t'as le couplet, le refrain, le break, ça repart machin. Et c'est vrai que c'était parfait, déjà, tu vois. Donc je pense que ça avait déjà l'allure d'un tube, en fait.
Ouais.
Pour une musique qui n'en est pas d'habitude, en vrai.
Un des plus grands sons des années 90. Si on a fini de se branler sur Nirvana, je clôture ma chronique là-dessus. Avec Something in the Way qui clôture cet album et qui clôturera peut-être aussi du coup cette émission si Luc est d'accord.
Ouais, ou je peux mettre. Il n'y a pas un Francky Vincent ou un Sardou là?
Non.
Pourquoi
ah, non, balance, c'est déséquilibré.
Pour une fois, je suis gentil.
Ok, c'est bon. Something in the Way, alors on y va. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Pezzo, merci Yuna, merci Manu, merci JB et merci Karim.
Merci Luc.
Retrouvez-nous dans deux semaines pour parler d'Edouard aux mains d'argent. HervéTurfu@gmail.com pour nous proposer vos films. Rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord. HervéTurfu.com pour retrouver tous les épisodes de RVLT du début de la fin et de Shitlist. 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes, Podcast Addict avec un petit commentaire. Partagez un maximum le podcast. Allez, ciao, à bientôt. Salut. Something
T'imagines, cette musique, elle serait sortie pendant le Covid.
Le suicide, c'est cool.
20% de taux de suicide.